Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sabine Marin.
Et bienvenue à vous sur cette libre antenne du samedi soir. Nicolas Godet est à la réalisation. Hassan et Corentin sont à mes côtés ce soir pour vous accueillir au standard et vous donner la parole jusqu'à 1h du matin. Un seul numéro de téléphone pour nous joindre, le 3921. Et pour participer par SMS, le 73921, en commençant par le mot « nuit ». Car cette libre antenne est comme un voyage au cœur de la nuit. Voyage identique, pourtant chaque fois recommencé. Ça me rappelle un très beau texte de Frédéric Lenoir dont voici un extrait. La vie est un voyage. Comme les oiseaux, nous sommes un jour appelés à quitter le nid de notre enfance pour voler de nos propres ailes. Nous allons découvrir l'amour et bien souvent fonder une famille. Nous allons apprendre un métier pour nous réaliser dans un travail et subvenir à nos besoins. Tout cela est bien, mais ce n'est pas suffisant. Au long du voyage de la vie, nous allons rencontrer bien des obstacles. La maladie peut survenir, l'amour peut s'éclipser, nos proches vont mourir. Nous ne sommes jamais sûrs de toujours pouvoir faire face aux difficultés matérielles et émotionnelles de l'existence. Nous allons découvrir combien il est difficile d'aimer, combien il est de plus en plus rare de trouver un travail qui nous épanouisse vraiment, combien nous sommes souvent pris dans des contradictions intérieures, des jalousies, des découragements, des peurs, des colères, des frustrations. Au fil de la vie, nous allons apprendre à vivre en conscience et avec attention, en évitant de commettre les mêmes erreurs que dans le passé, en se donnant les moyens d'être véritablement soi-même et heureux autant que peut se faire. Tout cela s'apprend avec le temps et l'expérience. Mais il est infiniment précieux d'utiliser au plus tôt la clarté de notre cœur pour nous guider sur le chemin de la vie. Bien des égarements, des erreurs, des mauvais choix, des drames pourront ainsi être évités. Ouvrons donc notre cœur ce soir et allons ensemble y puiser la lumière pour avancer. Venez prendre la parole, appelez-moi au 3921. Et la première personne que je vais prendre ce soir sur cette libre antenne, c'est Sophie.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir à vous Sophie.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue.
Merci.
Alors vous avez une histoire riche en événements et en... J'allais dire, vous êtes une résiliente.
Je ne sais pas si je suis déjà une résiliente, mais...
En chemin.
Comme j'espère. En fait, déjà, je vous écoute depuis longtemps. Mmh. Et je trouvais que c'était quand même important de faire partager mon expérience éventuellement.
Bien sûr.
Pour peut-être permettre à des personnes de soit d'éviter ce genre d'écueil ou. Voilà.
De... Quelquefois, de se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre la même chose, en fait.
Voilà, parce que ça m'arrive souvent quand j'écoute votre émission de me dire « Ah oui, mais moi aussi, c'est exactement ça. »
Et ça console déjà un petit peu.
Tout à fait. Mmh. Et puis vos conseils, vous savez rebondir, et donc ça peut être important.
Alors racontez-nous votre histoire, Sophie.
Alors moi, j'ai rencontré l'homme qui allait être mon mari dans le cadre du travail. Donc on était jeunes, on était célibataires. Et c'est une personne que je trouvais très charmante et on se plaisait. Donc déjà, ça commençait très très mal dès le départ. C'est vrai qu'avec le recul maintenant des années, je me dis mais pourquoi j'ai persisté à rester ?
Qu'est-ce qui a mal commencé dès le départ ?
Ben, la relation, c'était très 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 électrique, parce que on se plaisait beaucoup, mais dès le départ, en fait, il m'a fait des coups tordus. Un exemple, j'étais une grande fumeuse, donc il savait très bien puisqu'on travaillait ensemble. Donc c'était l'époque encore où on fumait dans les bureaux, etc. Et quand on a commencé à flirter ensemble, le premier truc qu'il m'a dit, c'est si tu veux qu'on reste ensemble, il va falloir arrêter le tabac, la cigarette.
Il veut commencer par vous changer déjà, oui.
Le premier jour, hein, c'est vraiment... bon.
Est-ce qu'il y avait une hiérarchie entre vous au travail ?
Oui, un peu. Ah. Enfin, moi, j'étais en fait son assistante.
Et oui.
Mais bon, c'était dans le cadre commercial. Donc
oui, mais ça, c'est déjà pervers dans une relation, ça.
Voilà. Mais bon, c'est vrai que moi, il était beau, il était, je le trouvais intelligent, j'étais jeune.
Mais oui.
Voilà, donc j'étais peut-être un peu aveuglée par...
Il avait le pouvoir.
Voilà, et puis moi j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'expérience, donc c'est vrai, c'est pas quelque chose que j'ai compris tout de suite en fait.
Mais t'as anticipé et la suite.
Pas du tout, du tout. Et donc dès le départ ça a commencé, puis tout très rapidement, on vivait chacun chez nos parents, donc j'avais pris le parti à l'époque de chercher un appartement, donc je l'ai trouvé, et puis très rapidement, bon, je me suis rendu compte qu'en fait, le contrat avait été signé pendant que j'étais pas là, et donc je pouvais plus mettre mon nom sur le contrat, donc pas de nom sur la boîte aux lettres, donc j'étais pas vraiment chez moi, donc dès que ça allait pas, me redemander les clés, me foutre à la porte, enfin, c'était très 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 électrique. Et donc, on se séparait, on se remettait ensemble, Et j'ai commencé à avoir des problèmes de santé très rapidement, dès le départ, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite.
Et oui, avec le recul, vous comprenez maintenant.
Voilà, c'est ça exactement.
Quand je dis que le corps ne ment jamais.
Pardon ?
Quand je dis que le corps ne ment jamais.
Voilà, c'est ça. Et donc j'ai eu des problèmes, on va dire, au niveau du ventre.
Et oui,
des
féminin.
Douleurs. Non. Voilà, des douleurs, bon, des dysfonctionnements, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'avais mis ça sur le fait de peut-être des problèmes au travail aussi, tout sauf la relation sentimentale.
Ben oui, vous n'aviez pas envie d'entendre ça, de voir ça.
Peut-être, mais vraiment, mais je n'ai jamais compris ça. Et plus ça allait, plus les crises étaient quand même assez dures à vivre, et plus les problèmes de santé s'intensifiaient en fait. Donc j'ai fait des analyses, donc les médecins, ils disaient, on comprend pas, il n'y a pas la toxine machin, il n'y a pas le truc. Ils ne comprenaient pas, donc moi j'ai perduré à prendre donc, et des antidépresseurs, des médicaments, aller voir des psys à droite à gauche, etc. Et bon, à chaque fois, on me disait, oh, bah, c'est peut-être dans votre enfance, des choses, etc. Mais je suis restée quand même dans cette relation avec des coupures et des... Et en fait, il y a eu un point culminant. Donc, bon, je vous ai pas dit qu'on s'est mariés, donc au bout d'un moment.
Et donc,
15 ans après, la rencontre.
Voilà. Là, pour donc, le coup, c'était moins rapide que tout le reste.
Alors non, parce qu'il n'était pas prêt. Moi, j'ai patienté. Il y a eu plein de disputes, de retours en arrière, etc. Donc, au bout d'une séparation qui avait duré un petit peu plus... Bon, moi, j'avais mis les cartes sur table en disant, moi, je veux bien revenir, mais je veux fonder une famille, je veux des enfants, mais je préférerais qu'on soit mariés, etc. Donc, ça a pris un certain temps. Donc, je me suis mariée donc, 15 ans après cette rencontre. Donc, très rapidement, il y a eu deux enfants qui sont nés.
Désirés par les deux parents ?
Oui, tout à fait, d'accord. Très désirés.
Ok.
Et là, très rapidement, ça a été donc vraiment des disputes vraiment qui allaient crescendo pire qu'avant. Moi, je situe ça avec l'arrivée des enfants.
Et oui, parce que vous étiez coincée, de plus en plus coincée avec deux enfants.
Et complètement.
Donc, c'est plus facile d'avoir la mainmise sur vous.
Voilà, donc ils préféraient que je travaille pas, donc ils préféraient que j'emmène les enfants après à droite à gauche, cours de danse, de gym, etc. Mmh. Donc ça valait pas le coup que je travaille, bien sûr, donc parce qu'en plus avec le salaire que je ramenais, c'était pas très intéressant.
Oui, ça coûte plus cher de les faire garder, etc., etc. C'est ça.
Et voilà.
C'est ça, c'est un discours tellement classique. Ah oui.
Voilà, donc moi, bon, comme j'étais. Je voulais que mes enfants grandissent aussi dans de bonnes conditions. Donc, je faisais des missions d'intérim. Puis après, ça s'arrêtait. Ils me remettaient la pression. Donc, moi, je me disais, mais il faut que j'ai un boulot. Il faut que je sois indépendante. Donc, je retrouvais une mission. Et pendant la mission, c'était par exemple... ils ne faisaient rien pour faciliter l'existence, quoi. Donc, tout ça s'est déroulé plusieurs années. Et puis, mes problèmes de santé continuaient. Avec quelques moments d'accalmie, mais ils étaient toujours là. Et puis bon, j'avais jamais le droit de choisir mes vacances, mes lieux de vacances, donc c'était toujours un peu subi, etc. Et puis il y a eu un moment de gros ras-le-bol, Et je sentais que j'étais fatiguée. Et donc, on est parti en vacances. Et quand je suis revenue, bah, j'ai eu mes problèmes toujours de santé, qui devenaient graves. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu une très grave déshydratation. Donc, j'ai dû appeler SOS médecin. Donc, tout ça toute seule. Je me tordais de douleur la nuit. Il regardait son téléphone pendant que moi, je me tordais de douleur, etc. Donc, bon, c'était vraiment très, très impressionnant. Et en fait, un jour, c'était en plein mois d'août, les médecins n'étaient pas là. On m'a conseillé d'appeler le SAMU parce que les symptômes étaient inquiétants.
Ça devenait urgent, là, oui.
Voilà, donc j'ai appelé le SAMU, donc j'ai eu un médecin au téléphone, je lui ai expliqué ce que je vivais depuis quelques jours. Il m'a dit, écoutez, là, vous arrêtez tout. Si vous avez un hôpital et quelqu'un pour vous y emmener, faut y aller tout de suite. Donc, bien sûr, mon mari, il pensait que je faisais juste un peu de cinéma.
Oui,
donc, voilà, donc moi, j'ai eu un mal fou à essayer de caser les enfants. Je trouvais pas trop de solutions. Tout ça avec 42 fièvres, avec des crises, des douleurs incroyables, vraiment pliées en deux, etc. Et puis, donc je me suis retrouvée aux urgences. Et aux urgences, on m'a fait une prise de sang et j'avais une infection assez grave, quoi. Enfin, ils ont vu dans le sang que je faisais une infection. Donc, mon mari était là. Alors après, il expliquait, oh, tu fais une grosse... Ça va aller, c'est pas grave.
C'est pas si grave que ça. Ouais.
C'est pas si grave que ça. Donc, je suis restée la nuit en surveillance aux urgences, dans une chambre spéciale au niveau des urgences. Et ensuite, en fait, j'ai passé au total, on va dire, 8 jours sous perfusion. En fait, je m'étais énormément déshydratée et sur cette période, j'ai perdu en une semaine 6 kilos à l'hôpital. Donc, j'étais vraiment affaiblie et très, très mal. Et puis, donc, j'arrivais pas à avoir mes enfants au téléphone. Donc,
quel âge avait-il à ce moment-là ?
Mon mari ?
Non, les enfants.
Ah, 5 ans et 8 ans.
Oui, donc, dépendant complètement de leur père.
Voilà, tout à fait. Oui. Et moi, donc, j'étais dans une chambre individuelle où je pouvais pas, vous savez, sortir parce qu'ils suspectaient que j'étais infectieuse, quoi, en fait.
Ah oui.
Donc, voilà, donc c'était un peu difficile à vivre. Je pouvais pas sortir de la chambre, j'étais toute seule. Et donc, j'avais pas de nouvelles des enfants, j'avais pas de nouvelles de mon mari qui travaillait. Et donc, un jour, alors il m'envoyait des textos parfois en disant « Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Donc, je lui avais demandé de me ramener des vêtements. Et j'étais dans mon lit, donc j'étais sous perfusion. Donc, assez affaiblie quand même. Hein. Donc, je me faisais du souci parce que j'avais quelque chose, on ne trouvait pas trop ce que j'avais. Et puis, en plus de ça, j'étais très faible. Et puis, je n'avais pas mes enfants au téléphone. Donc, j'étais vraiment, vraiment très mal, quoi, au fond du gouffre. Et un soir, il arrive un peu tard, un peu à la limite des visites, si vous voulez, quand les visites allaient se terminer. Et puis, il fallait qu'il mette une blouse, un masque, enfin voilà, juste pour la visite. Et l'infirmière ouvre la porte, et il ouvre la porte, et il me dit « Tiens !» Et là, il me balance un sac où il devait y avoir quelques vêtements à moi. Mais vraiment, sur mon lit, quoi, sur moi. Il me le jette comme ça, il rentre même pas dans la chambre, il me jette le truc. Moi, j'avais la perfusion et tout. Il me dit tiens, et il s'en va, et il me jette un regard, mais d'une méchanceté, mais inouïe.
Sans un mot.
Sans un mot, quoi.
Vous avez dû être abasourdi.
Ah, mais c'est même. Enfin, abasourdi. Donc, il y avait l'infirmière qui n'en revenait pas. Donc, il est parti, limite en claquant la porte. Enfin, un truc de dingue. Et là, j'ai pleuré, j'ai pas mal pleuré, quoi. L'infirmière m'a quand même, elle a été gentille, elle est restée un peu avec moi, elle m'a dit, vous savez, les hommes, parfois, quand une femme n'est pas
en état,
ils ont du mal à supporter, tout. Enfin, bon, je me disais, mais là, c'est quand même le sommet, quoi, qui peut supporter ça, enfin, comment on peut en arriver là, comment on peut, il aurait été beaucoup plus gentil avec un inconnu dans la rue.
Et ça, ça cachait quoi alors ce comportement? Qu'est-ce qu'il y avait en réalité?
Eh ben en fait, il devait travailler et préparer un événement professionnel, et donc ça lui a tout pour lui. Je devais rester à la maison garder les enfants sur cette période-là du retour des vacances. Et en fait, je lui ai tout déprogrammé. Enfin, je lui ai tout. Enfin, lui, il disait que voilà que j'avais tout chamboulé son emploi du temps. Qu'il devait préparer cet événement, que c'était très important.
Parce que bien sûr, vous avez fait exprès d'être malade.
Ah ouais. Enfin, il ne le disait pas comme ça, mais si vous voulez,
c'était
pour
sous-entendu,
lui...
C'était sous-entendu, quand
même. Sous-entendu. Et là, je me suis dit, bon, c'est vrai que j'avais quand même accepté des sacrés couleuvres pendant toute notre relation. Il y avait des choses que j'avais mis mon mouchoir par-dessus parce que je l'aimais. Enfin, mais là, franchement, que vous vous retrouvez dans un lit d'hôpital, affaibli, bon... Vous n'êtes pas au top, vous êtes tout seul. Enfin, c'est vrai que j'arrivais pas à voir mes enfants au téléphone. Enfin,
c'est un mauvais scénario de film.
C'est un mauvais scénario. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé le divorce. Bah, pour moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je peux pas.
Il vous a pas donné une autre explication?
Non. Il m'a pas donné d'explication. Après, ça a été pire que tout parce que moi, après, je suis rentrée. Donc, chez moi. Mmh. Et ma maman m'avait dit, je vais aller te chercher, je vais te faire des courses. Et quand je suis rentrée chez moi, je veux dire, le frigo, il y avait des trucs qui avaient quasiment moisi dedans. C'est-à-dire qu'il avait laissé tout en plan la maison, comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les courses qui étaient dans le frigo de 8 jours d'avant, tout était resté. C'est-à-dire que... vraiment aucune empathie, aucune gentillesse, aucun vraiment, alors ça a été pour moi, ça a été pire que tout, quoi.
Et les enfants allaient bien quand même?
Alors oui, en fait les enfants allaient bien, ils avaient été en fait chez leurs deux mamies finalement, et quand on s'est retrouvés, enfin ça a été une retrouvaille immense, parce que bon, elles s'inquiétaient en fait.
Attendez, vous dites que les enfants étaient chez les mamies, donc ça ne l'a même pas dérangé, lui?
Eh bien, finalement, moi, j'avais trouvé une solution avec ma maman, et puis, bon, sa maman avait... Enfin, il avait mis les enfants chez sa maman.
Donc il n'a pas été si tant dérangé que ça?
Non, mais comme sa maman travaillait avec lui, ça perturbait ses plans, quoi. Et c'est vrai que là, il m'en a énormément voulu. Donc, moi, je suis rentrée. Et bon, après, au lieu de retrouvailles, un peu quand même, ça a été pire que tout. C'est-à-dire qu'en fait, il m'en voulait d'avoir en fait fait ce séjour à l'hôpital, d'avoir perturbé son emploi du temps. Et c'est un truc, c'est pour ça que je voulais témoigner, c'est que je pense qu'il dès le départ, quand ça tourne mal, faut quand même essayer de comprendre, parce que il faut pas croire qu'on peut changer des gens. Moi, j'ai toujours pensé que l'amour était plus fort que tout, qu'il allait changer, et en fait, non. Et aujourd'hui, voilà, je suis dans une procédure de divorce.
Alors, comment ça s'est passé? Comment il a pris quand vous avez demandé le divorce? Parce qu'on est en plein là dans le pervers manipulateur.
Eh bien, ça s'est passé qu'en fait, lui, quelques années plus tôt, quand il était très énervé, il menaçait toujours de débrouille-toi pour trouver un avocat. T'as intérêt à trouver un avocat, je vais demander le divorce, je vais demander la garde des enfants, etc. Donc moi, j'étais complètement paniquée, parce qu'en plus, c'était des périodes où, évidemment, je restais avec les enfants, donc j'avais... Parfois, je travaillais pas à ce moment-là, si vous voulez. Mmh. Donc j'étais vraiment paniquée. Et donc, c'était tellement énorme, cette réaction qu'il a eue envers moi, je me dis, on ne peut pas faire ça à quelqu'un qu'on aime, quoi. Enfin, je veux dire, qu'on a aimé, même. Enfin, je me suis dit, je ne peux faire que ça, sinon je ne me respecte pas moi-même.
Il était temps, effectivement, oui.
Voilà, et en fait, il a été outré que je demande le divorce. Enfin, il a même pas eu de compassion.
Il a perdu le contrôle, là, donc forcément, il était furax.
Complètement. Et là, ça a été pire que tout, quoi. Là, ça a été déferlement de méchanceté. je passe de tout ce que j'ai eu. Donc ça fait plusieurs années que ça dure. Donc on n'est toujours pas, on est séparés, mais toujours pas divorcés. Parce que en fait, il tolère pas que ce soit moi qui ai pris cette décision.
Et oui, c'est un crime de lèse-majesté là.
Voilà. Et donc je voulais vraiment dire, enfin voilà, quand ça commence mal avec une personne et que même au niveau physique, on sent qu'on a des choses un peu inexpliquées, des douleurs, des choses comme ça. Enfin voilà, il faut vraiment faire attention.
Ben là, sur la et symbolique, voilà, dans cette relation, vous vous êtes desséché.
Oui.
Et il était infect avec vous. Et vous avez développé une infection.
Écoutez, ce qui est incroyable, c'est que quand je suis sortie de l'hôpital, mon médecin m'a envoyée vers un médecin de ville, mais spécialisé un peu dans les régions du ventre, là. Mmh. Et le médecin, quand je lui ai un peu parlé, m'a dit que j'étais devenue malade, exactement ce que vous dites.
Vous êtes rendue malade, bien sûr. Ben forcément, voilà. Vous savez, on le sait à quel point... tout ce qu'on vit, on n'est pas un corps et un esprit séparés, on est un tout. Hein.
Et voilà, et ma question, je voulais témoigner, puis en même temps, je voulais vous demander comment on peut. Enfin, je n'arrive pas à oublier cet événement. Vous voyez, cette histoire de. C'est vraiment de la méchanceté presque gratuite, quoi, parce que de quelqu'un qui est à l'hôpital faire ça. Enfin,
c'est une violence psychologique.
Je ne sais pas comment on peut oser faire ça. Enfin, c'est quelqu'un qui va être charmant, peut-être avec une personne dans la rue qu'il ne connaît pas. Enfin, vous voyez, mais sa propre femme, la mère de ses enfants, je veux dire, jusqu'au bout, il croyait que je faisais du cinéma.
Oui, là, on est au niveau zéro du respect, de l'amour, de tout ça. Il n'y a plus rien, là.
Complètement. Donc, comment on peut continuer à vivre, avoir confiance en soi, avoir confiance dans les autres. Vous voyez,
on va reparler de tout ça, Sophie. Moi, la question que je me posais, c'est que les 15 premières années, vous avez dit plusieurs fois, j'étais jeune, c'était houleux, on se séparait, on revenait. Est-ce que pendant ces années-là, vous aviez l'impression d'être vivante dans une relation comme ça?
C'est vrai que comme il me plaisait beaucoup, je le trouvais intelligent, je le trouvais beau. Voilà, j'étais un peu motivée par ça. J'étais une relation vivante. Il y avait des accalmies.
Je ne parle pas de la relation vivante, je parle de vous. Parce que quelquefois, quand on accepte finalement, plus ou moins consciemment ça, c'est qu'on se sent très très vivant avec ce genre d'homme. Vivante en l'occurrence. On se sent plus vivante que les autres parce qu'on vit quelque chose de plus intense. Et c'est ça qui fait que la perversion de la relation, c'est ça. C'est que j'accepte des choses pas acceptables, mais en même temps, il se débrouille pour me donner l'impression que ouais, je vis plus intensément que les autres. Quoi.
Peut-être. Peut-être, avec le recul.
Comment c'était pour vous dans l'enfance ou l'adolescence? Est-ce que vous vous ennuyiez un peu? Est-ce que vous étiez un petit peu en retrait?
Ouais, j'ai toujours été assez casanière.
Voilà, c'est exactement le schéma typique. Facile. Vous étiez une proie facile pour lui.
Oui, j'avais pas beaucoup d'amis. Bon, j'avais quand même des amis, mais j'avais pas eu beaucoup d'aventures. Enfin, vous voyez, j'étais
rien
assez.
Quoi.
Bah oui, non, non. Et c'est vrai qu'avec lui, c'est vrai qu'au départ, déjà, quand on s'est rencontrés, il était très froid. Donc moi, je trouvais ça motivant.
Ben voilà. Non, il a su tirer les bonnes ficelles, en fait. Bien sûr.
Oui, voilà. Alors, parfois, il était encore plus froid. Alors moi, je me disais, bon, je lui plais pas. Alors j'essayais un peu de... peut-être... à l'époque, je trouvais ça un peu marrant. Enfin, je...
Ouais. Oui, et peut-être lui, que et lui, ça... c'était un petit garçon comment avec ses parents? Quel genre de relation il avait notamment avec sa mère? Vous savez ça?
Bah, j'ai cru comprendre après par la suite que c'était très fusionnel, mais qu'elle était... bon, moi, je ne suis pas psychologue, hein. Mais bon, ce qu'on peut appeler castratrice un peu, celle qui sait tout...
Ça aussi, c'est une grande constante. La grande majorité des hommes qui sont pervers manipulateurs comme ça, et très narcissiques, ont une mère assez toxique, et très castratrice.
Ouais, alors le problème, c'est que c'est devenu un peu à la mode. Alors moi, j'en parle jamais parce que
complètement. Je sais que c'est comme quand on dit que quelqu'un il est parano, la paranoïa est une maladie, mais c'est devenu un terme galvaudé.
Un peu, voilà.
Sauf que
c'est
là,
ça, donc...
franchement, Sophie, on est dedans, on est vraiment plein dedans. C'en est presque caricatural tellement on est dedans.
Ah ouais, moi je me souviens, des fois, lui il sortait parfois avec ses copains, moi avec mes copines, donc ça nous arrangeait bien tous les deux, on avait une certaine indépendance, bon on vivait ensemble. Et je me rappelle d'une fois, donc j'étais rentrée, et puis bon, moi j'étais quand même sérieuse, j'ai jamais trompé, enfin j'étais quand même... Et il n'avait pas aimé, en fait, il m'avait dit qu'il était ok pour que je sorte, mais visiblement il n'avait quand même pas supporté, quoi.
Oui, c'est la bouche, c'est souffler le chaud et le froid tout le temps.
C'est ça, et quand je suis rentrée, genre à 2-3 heures du mat, parce que j'étais quand même jeune, bon et tout, je me rappelle très bien, je m'étais couchée, donc je faisais pas de bruit et tout. Il avait attendu, je m'étais couchée, et il m'a poussée du lit par terre. C'est un truc que je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Et je me souviens, donc je comprenais pas, donc j'essayais de comprendre, et était devenu hyper, vraiment agressif, quoi. Et moi, je comprenais pas, parce que je lui dis, mais je t'ai demandé, ça te dérangeait pas? Je dis, toi, l'autre jour, t'es bien sortie. Il avait à son travail parfois des sorties.
Mais c'est le propre des pervers, ça, Sophie. Il vous pousse à faire quelque chose pour vous reprocher ensuite de l'avoir fait.
Et ça rend fou. Ça rend dingue, ouais.
Oui, bien sûr. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que je dois faire? De toute façon, quoi que vous fassiez, ça n'ira pas.
C'est ça. C'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte, mais bien tardivement, que, bon, voilà, que tout plein de choses s'éclairaient quand j'ai décidé de me séparer. Et figurez-vous, ça je voulais vous dire aussi, c'est que quand j'ai obtenu donc de pouvoir vivre, de me séparer, donc les enfants avaient du mal aussi, parce que un papa qui est très nerveux comme ça, des fois c'est dur à vivre quand on est petit. Et ben du jour où j'ai habité ailleurs, donc avec mes filles, je n'ai plus eu de problème de ventre. Mais plus du tout. Alors qu'avant, je veux dire, je vivais avec tous les jours, ça faisait presque partie de moi. Et en fait, j'ai réalisé ça, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça.
Mais c'est intéressant que vous partagiez ça ce soir, parce que souvent, quand j'en parle, les gens ne comprennent pas. Ils me disent, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs symboliques ? Je dis, non, ça n'a rien de symbolique, le corps ne ment pas.
Je me pliais de douleur, mais comme un accouchement, quoi. J'avais des... des douleurs effroyables, hein. C'est vraiment...
Oui, je comprends. Le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas à écouter notre corps. Si on nous apprenait depuis tout petit... Mais vous savez que même pour une décision... J'ai eu cette conversation aujourd'hui avec un jeune qui hésite beaucoup sur ses études, et je lui dis, tu sais, pose-toi, imagine-toi dans la filière 1, et vois ce que tu ressens dans ton corps. Connecte-toi vraiment à ça. Maintenant, après, imagine-toi dans la filière 2, et vois ce que tu ressens. Quand on apprend à écouter son corps, on ressent. On ressent quelque chose. C'est compliqué à expliquer avec des mots, mais on le ressent. Mais on ne nous apprend pas ça.
Non, mais même à l'école, au collège, etc. Bon, l'anatomie, on passe vite fait. Enfin,
non, puis quand ça va, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe quand on a mal? On nous dit, allez, prends sur toi, c'est rien.
Voilà, c'est ça.
Et surtout pas.
Non. On est dans une société...
S'écouter est un crime, alors que c'est l'inverse. On devrait nous apprendre à nous écouter dès le plus jeune âge.
Oui, tout à fait.
Il y a un très joli livre de Jacques Salomé qui s'appelle « Si je m'écoutais, je m'entendrais » aussi.
Ah, d'accord.
J'aime beaucoup ce titre.
Je vais le noter.
Si je m'écoutais, je m'entendrais. Mais oui.
Si je m'écoutais, je m'entendrais. Ouais. Oui. Je connais cet auteur de nom.
Jacques Salomé. Mais, oui. Vous l'avez vécu de plein fouet, exactement. Ouais.
Voilà. Et donc je peux vous dire que pour retrouver confiance ou quoi, ça va être hard.
Alors franchement, je suis pas si convaincue de ça que vous, parce que je trouve que vous avez fait un sacré chemin et que vous avez bien compris quand même tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez fait une thérapie pour analyser tout ça comme ça?
Bah, j'ai vu plusieurs psychologues, une thérapie, je ne sais pas comment c'est une thérapie, j'ai vu des psychologues, oui, j'ai même pris des médicaments, parce que avant de comprendre, vous pensez que voilà, vous avez juste un problème de santé, c'est une thérapie... Vraiment, en fait, c'est quand je suis partie, j'ai compris que j'avais plus de problèmes de santé, quoi. Et j'ai fait le rapprochement.
Bien sûr. Oui, la maladie vient souvent nous dire stop. Il y a quelque chose que tu ne respectes pas dans ta vie.
Ah oui.
Et quand on arrive à le comprendre, on avance beaucoup plus vite derrière.
Oui. Mais parfois, il faut vraiment, vraiment qu'on nous mette le nez pour comprendre, quoi. Enfin, je veux dire, il y a eu plein de clignotants, mais je ne les ai pas compris, quoi.
Alors maintenant, par rapport à vous, puisque vous avez une compréhension des choses, on va pouvoir aller plus loin dans cet échange, vous n'allez pas pouvoir ni changer ce qui s'est passé, ni le changer lui. Par contre, vous allez pouvoir changer la manière dont vous vous positionnez par rapport à ce qui s'est passé. Et je vais vous expliquer. Le seul moyen d'en sortir, c'est de ne pas se positionner comme une victime. Alors attention, parce qu'on me déteste quand je dis ça, mais je vais vous expliquer.
Ouais.
Bien sûr, vous avez été une victime, mais quand il nous arrive, on va appeler ça une saloperie de la vie, quelle qu'elle soit, instantanément, on se positionne en victime. On endosse le manteau de la victime. Ouais. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on ne se rend pas compte qu'on se met dans une carapace, dans une armure, et que c'est cette armure qui va nous empêcher de nous délivrer. Et la deuxième chose dont on ne se rend pas compte quand on se positionne tout de suite comme victime, c'est qu'on laisse le pouvoir à l'autre de rester notre bourreau. Alors que si je sors de ce rôle de victime, je deviens plutôt une battante, j'enlève le pouvoir à l'autre de continuer à me faire du mal. Il s'est passé quelque chose à un moment T, ok j'ai été victime, mais je ne reste pas victime. Je sors de ce carcan-là, je reprends les rênes et je lui enlève ce pouvoir-là.
Oui. C'est juste, mais quand on a des enfants en commun, c'est quand même compliqué parce qu'on est toujours dans le rapport... on ne peut pas couper les ponts, on ne peut pas... le naturel revient au galop. Enfin, dans mon cas, en tout cas...
Tant que vous n'avez pas travaillé pour prendre le recul nécessaire, vous ne pouvez pas couper des ponts, vous pouvez couper le lien de couple, mais garder des liens de parents.
Et quand l'autre, il ne veut pas couper le lien
Ça n'a aucune espèce d'importance, c'est vous qui le coupez. C'est vous qui prenez... Vous savez, si vous avez une corde qui vous maintient l'un à l'autre, si y en a un des deux qui la coupe, elle se casse.
Ah oui, c'est juste. Il y a du boulot là.
Si vraiment, vous êtes quand même en choc un peu post-traumatique sur cette histoire de sac qui vous achetez. Allez faire de l'EMDR, vous m'entendez souvent parler ici.
Oui.
Faites deux, trois séances pour vous focaliser juste là-dessus et pour faire sortir cette émotion négative-là.
Ouais.
Et puis ensuite, en thérapie, moi, je vous conseille aussi de reconstruire justement pour vous ce lien qui était que vous aviez avec l'autre, vous le coupez et vous en créez un vers vous, de vous à vous. Un beau lien.
Ah oui, d'accord.
L'image
est belle, ouais.
Mais c'est ça le plus important.
Oui.
Tout l'amour que vous avez déposé sur lui à une époque qui vous a, j'allais dire, presque craché à la figure, vous allez le déposer sur vous maintenant. Le seul lien qui reste, c'est un lien de parents. Et ça, je vous rejoins bien évidemment, c'est un lien qui dure toute la vie. Mais c'est le seul. Tout le reste, vous coupez. Vous vous positionnez différemment par rapport à lui. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire.
Oui, c'est vrai. Ça va être un gros boulot, mais il faut que je me motive.
Oh, ça va plus vite qu'on ne le croit quelquefois.
Ouais.
Et ce qui est assez surprenant, c'est que quand on ne peut pas changer l'autre, certes, mais quand on change soi-même, forcément, on oblige l'autre à changer. Regardez, imaginez que l'autre est assis en face de vous et vous le regardez. Bon, il tourne la tête et il est face à vous. Vous changez. Oui. On va symboliquement imaginer que vous faites quelques pas pour changer. De fait, il est obligé de tourner la tête pour vous regarder.
Ah ouais, d'accord.
C'est une métaphore, mais quand on change soi-même, quand on avance, l'autre est forcément obligé un tout petit peu de changer parce qu'il ne peut plus continuer à jouer le même rôle, ça ne marche plus.
Il faudrait que je m'entraîne presque.
Et c'est pour ça, je pense qu'il faut un peu d'aide. Hein. Soit en thérapie classique, soit en hypnose, mais il faut un peu d'aide pour couper ces liens symboliquement, en réinstaurer avec vous.
L'hypnose, ça peut être... j'ai jamais fait, en fait.
Ça fonctionne très bien sur ce genre de problématique.
D'accord.
Parce que notre cerveau a besoin de symboles, fonctionne beaucoup par la symbolique. Et donc en hypnose, on va symboliquement couper un lien toxique avec ce monsieur. Et on va en réinstaurer un de parent, parce qu'on n'a pas le choix. On peut pas nier ça. Mais on réinstaure symboliquement le lien qui nous convient, à la bonne distance, celle qu'on veut prendre. Et on instaure un espace dans lequel on prend sa place d'adulte. Espace dans lequel on redresse la tête et les épaules. Et c'est ma place. Et je ne te change pas toi, parce que ça, je n'ai pas le pouvoir de le faire, mais je change moi la manière dont je me positionne par rapport à toi. Et surtout, je ne suis pas une victime.
Oui.
Tu as fait de moi une victime ce soir-là. Mais si je reste une victime, je te laisse faire de moi une victime tous les jours. Et là, en faisant ça, je t'enlève ce pouvoir-là tout de suite. Et ça, c'est très rapide.
Je vais suivre vos conseils.
Mais vous avez déjà fait un sacré chemin depuis cette histoire. Donc moi, j'ai confiance en vous, en la vie et en l'avenir pour vous.
C'est gentil, merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous souhaitez de plus beau maintenant pour vous dans les années à venir ?
Ce que j'aimerais, c'est vivre des moments vraiment simples, mm-hmm. sans me poser de questions, vous voyez, sans me...
Retrouver du calme.
Ouais, c'est ça.
Et de la sérénité.
Exactement.
Alors là aussi, concentrez-vous là-dessus. Vous savez, c'est comme en voiture, quand on est à la montagne et qu'on regarde le ravin, on y va.
On est attiré par le ravin.
Voilà, on va toujours vers ce qu'on regarde, on va toujours vers ce à quoi on pense. Donc libérez-vous des pensées nocives et toxiques qui sont les siennes, de ce comportement qui est le sien, mm-hmm. et concentrez-vous sur ce que vous voulez dans votre vie.
D'accord.
Quitte à vous le répéter à haute voix chaque matin ou à l'écrire comme vous voulez.
Ah ouais. Ah, c'est pas mal ça.
Ça aide. C'est tout simple. Vous savez, quand on monte dans sa voiture, on veut aller quelque part, on programme son GPS. Eh bien, on peut aussi programmer sa vie en se répétant chaque jour ce qu'on choisit.
Ah ouais, même si on a des galères un peu, des petites... c'est pas évident quand même.
Bien sûr, mais on a tous des galères. Mais on peut aussi se dire chaque matin, je vais y arriver. Je sais que j'ai la force d'y arriver.
Oui.
Je ne suis pas une victime, je suis quelqu'un qui reprend les rênes et qui va là où elle veut aller maintenant.
Mmh. Ah ouais, je vais essayer.
Et je vous dis, faites-vous aider éventuellement par 2-3 séances de MDR si oui. vraiment ce traumatisme-là a laissé un nœud. J'ai l'impression que le nœud est un peu ancien et bien coincé. Donc ça, oui. ça se nettoie. Et de la même manière, faites-vous aider aussi pour couper ces liens symboliques et instaurer un beau lien avec vous maintenant.
Oui, d'accord. Merci beaucoup Sabine pour votre écoute et puis vos conseils.
Avec grand plaisir Sophie. Prenez bien soin de vous.
J'espère qu'il y a des personnes qui pourront se servir de mon exemple.
Oh, j'en suis persuadée, c'est ce qu'on dit toujours, la libre antenne est une grande famille et l'expérience de chacun
oui.
apprend toujours aux autres, hein, vous le savez.
Bien sûr. Oui. Tout à fait, merci beaucoup en tout cas.
Je vous embrasse Sophie.
Moi aussi, au revoir.
Au revoir.
La libre antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et je vais faire maintenant la connaissance de Nicole. Bonsoir Nicole.
Oui, bonsoir Sabine.
Je vais d'ores et déjà vous demander de me pardonner. On va juste avoir le temps de faire connaissance. Oui. Quelques minutes, vous savez qu'il va y avoir une petite coupure pour les infos. Je vous récupérerai juste après.
Oui, je connais votre émission. Je l'écoute.
Vous connaissez le principe.
Pas mal de temps.
D'accord.
Oui.
Alors je vous écoute Nicole. Dites-moi en deux mots déjà ce qui vous amène ce soir.
En deux mots, je vis une situation très difficile puisque j'ai 53 ans. Mon mari est décédé il y a tout juste un mois. D'une maladie qui s'appelle la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Maladie neurologique dégénérative, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. C'est une infection neurologique pour laquelle il n'y a pas de traitement et l'échéance, elle est fatale, quoi. C'est-à-dire que on ne peut pas la guérir et on n'en sort pas.
Il a été diagnostiqué à quel âge?
À 55 ans.
Et ça a duré combien de temps?
Ça a duré tout juste un mois et demi, donc ça a été quelque chose de très, très rapide.
Très fulgurant, oui.
Fulgurant, oui. Et puis, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas, en fait. Et puis, quand ça vous tombe dessus, ça passe vite, mais c'est de la vie.
Bien sûr.
Voilà, donc je suis un peu paumée par rapport à ce qui me tombe dessus.
Vous êtes rencontré à quel âge avec votre mari?
Ah, je suis avec lui depuis mes 18 ans, donc vous voyez, on vivait ensemble.
Longue et belle histoire.
Oui, tout à fait. Oui, là-dessus, je me voyais finir ma vie avec lui jusqu'à mes vieux jours. Là, c'était, pour moi, c'était tout tracé, quoi. Mais après, c'est sûr que quand ce genre de maladie arrive, on a du mal à comprendre, en fait.
Pardonnez-moi, Nicole, on vous entend très très mal. Est-ce que vous avez un haut-parleur ou un kit manip ou quelque chose?
Non.
Ah.
Là, c'est mieux, peut-être.
Il y a un petit bruit. Ce qu'on va peut-être faire, c'est que pendant les infos, on va voir si Corentin peut vous rappeler pour voir si on peut caler ça. Juste dites-moi, quels ont été les premiers symptômes de votre mari?
Les premiers symptômes, ça a été des troubles de l'équilibre. Mm-hmm. Lui disait des sensations de vertige et puis des pertes de mémoire.
Et il y a un médecin qui a été rapidement capable de mettre un mot là-dessus ou ça a été un peu long? Ils ont trouvé tout de suite?
Oui, ça a été très rapide.
Et comment est-ce qu'il l'a pris, lui?
En fait, comme il était dans ses pertes de mémoire, il disait qu'il allait bien. Il était serein au départ, je veux dire. Je ne suis pas sûre qu'il ait perçu...
L'ampleur des dégâts, oui. C'est vous qui avez pris ça de plein fouet, du coup.
Ah ben, totalement, oui. Et puis, il a fallu gérer les enfants. Bien sûr. Si maintenant, ils sont grands. Je pense que vous allez me reprendre.
Oui, voilà, on va faire une courte pause. Corentin va voir si on peut avoir une meilleure liaison. Et je vous récupère juste après les infos, Nicole, si vous le permettez.
D'accord.
Merci beaucoup, à tout de suite.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Passer ensemble au cœur de cette libre antenne du samedi soir sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr continuer à prendre la parole. Pour ça, il vous suffit de nous appeler au 3921. Corentin et Hassan sont là. Ils attendent vos appels. Ils vous guideront en toute bienveillance jusqu'à moi. 3921 donc pour prendre la parole. Et si vous souhaitez participer par SMS, c'est toujours le 73921 en commençant par le mot nuit. J'aurais bien aimé poursuivre ma conversation avec Dominique, mais Corentin me fait savoir que la liaison était vraiment inaudible et que malheureusement nous avons dû raccrocher avec Dominique. J'espère qu'on pourra. Avec Nicole, pardon. C'est l'inverse, c'est Dominique que je vais prendre maintenant. Nicole, si vous m'écoutez, je m'en excuse, j'aurais bien aimé parler avec vous. Peut-être qu'on arrivera à le faire plus tard ou demain, si ça ne passe pas ce soir. Et donc du coup, c'est Dominique que j'accueille maintenant. Bonsoir à vous, Dominique.
Bonsoir. Bonjour, Sabine. Vous entendez? Je vais vous faire entendre des grillons. Vous les entendez?
Des grillons?
Je suis dehors, je suis devant ma maison, j'habite dans le Jura. Dans les vignes.
Alors attendez, faites le silence, moi aussi, on va voir si on les entend.
Vous les entendez ?
Un tout petit peu.
Oui, c'est pas bien fort. Je m'approche un petit peu.
Vous me faites voyager, là.
Je voulais vous faire profiter de ce moment. Là, je suis sous une constellation d'étoiles. J'ai la chance d'habiter en pleine campagne dans le Jura. Puis je voulais vous faire profiter de ça avant de parler.
C'est gentil. Il fait encore très doux, là, j'imagine, ce soir.
Je suis sûr qu'il fait une quinzaine de degrés. Je suis en pyjama.
C'est formidable.
Je viens d'assister à une fête de... Une cabane, ça s'appelle. C'est une cabane de vigneron, une caborde qui a été inaugurée dans le Jura. Puis je viens de rentrer, voilà.
Bon, c'était une belle soirée.
Donc j'ai la chance d'habiter une belle région. Voilà, c'est... Si vous connaissez le Jura?
Je l'ai traversé. Je connais plus la Haute-Savoie que le Jura, mais...
Je vous conseille de venir. Vous avez le Haut-Jura vers les Rousses qui est connu vers la station où c'est chouette. Voilà. Donc, le but de mon appel, c'était de vous parler du bégaiement. Mm-hmm. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas tellement. Vous m'entendez pas tellement bégayer maintenant. Quoi, ça y est, il suffit que je le dise.
Et voilà, comme quoi, c'est très psychologique.
Ouais, comme quoi... Oui, j'ai déjà parlé avec Sophie, quoi, parce que j'ai déjà eu des problèmes. Mmh. C'est la troisième fois que j'interviens. Je suis intervenu parce que j'ai, pour la mort subite du nourrisson. Et puis j'ai survolé le problème du bégaiement, mais ça me tient à cœur parce que j'en ai beaucoup souffert étant enfant. Voilà. Mmh.
Ça a commencé à quel âge?
Justement, je voulais vous en parler. De quoi ça peut venir, c'est le but aussi de mon appel, parce que depuis, comme on dit, ma plus tendre enfance, je me souviens d'avoir bégayé, voilà. Je me souviens des phrases de mon papa qui me disait « Si t'arrives pas à le dire, chante-le ». C'est vrai que quand on chante, on bégaye pas, quand on bégaye.
Tout à fait, c'est une des techniques pour s'en sortir, ça.
Oui, c'est une technique, mais moi je me souviens que depuis tout petit, je bégayais. Oui.
Alors le bégaiement est un stress qui peut être lié à un problème de place. J'arrive pas à trouver ma place dans ma famille, j'arrive pas à trouver ma place à l'école. Il peut y avoir un... Vous savez, c'est un peu ce mouvement, un pas en avant, un pas en arrière, je n'arrive pas à m'imposer. Est-ce que vous étiez un petit garçon comme ça, très timide?
Oui, j'étais très très timide. Oui, je pouvais pas... J'ai été rejetée, quoi. J'ai été pas aimée par mes parents, je l'ai sentie très petite, quoi. J'ai du mal avec ma maman maintenant, oui.
Ça peut déjà être une cause psychologique quand on se sent rejeté. Effectivement, on n'arrive pas à sortir ce qu'on a à sortir, on rentre tout à l'intérieur, quoi.
Je sais que mon papa avait la maladie des os de verre et il avait un regard très très dur. Parce qu'il avait, si vous voulez, la maladie des os de verre, on voit sur le visage de la personne dans les yeux. Mmh. Il a le blanc des yeux bleus, la personne qu'il a, et autour de l'iris, il a un cercle. Donc ça lui faisait un regard dur et je me souviens de ce regard dur qui me marquait, quoi.
Vous aviez peur de ça ?
M'a marqué.
Sauf qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous pouvez comprendre que ce regard-là n'était pas lié à de la méchanceté, mais à la maladie.
Oui, mais ça accentuait la dureté de son regard. Ouais.
Oui, bien sûr.
J'ai été beaucoup tapé, j'ai été beaucoup maltraité étant enfant. Oui, j'en ai parlé avec Caroline aussi, je suis passé déjà à l'antenne, je ne veux pas revenir là-dessus parce que les auditeurs ont peut-être déjà entendu. Je voulais parler parce qu'on parle beaucoup.
On va parler du bégaiement justement, j'ai bien compris.
On parle beaucoup parce que même maintenant j'en souffre encore à 62 ans, vous voyez.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir de ça?
Ben rien. On m'a dit que ça s'atténuerait avec l'âge. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu des orthophonistes, des psychologues, donc j'ai eu une scolarité à part tout le temps, vous voyez. J'étais placé dans des IMP, dans des... Voilà, parce que j'étais au fond de la classe, quoi. Parce qu'on ne pouvait pas s'occuper de moi parce que je bégayais. Donc j'ai été délaissé. Il a fallu que je me batte deux fois plus pour m'en sortir. Le plus dur aussi, c'était la moquerie dans les cours de récréation. On me disait que, vous voyez.
Et plus on se moque de vous, plus vous bégayez en plus.
Comment?
Plus on se moque de vous, plus vous bégayez.
Voilà, c'est ça. Merci. Et ce qui me provoque, par exemple, même maintenant, avant on prenait des billets de train, c'était pas comme maintenant, d'être dans une file d'attente avec 400 personnes, le stress augmente et j'arrivais pas à prendre mon billet de train. Là, je vais à la boulangerie maintenant, ça m'arrivait encore hier. Il y a 3 personnes devant moi. Je ne peux pas dire, je demande une baguette, je demande 3 baguettes, on m'en donne une, je monte mes doigts, voilà.
Oui. C'est un gros stress et c'est un énorme manque de confiance aussi.
C'est un manque de confiance en soi que ça vient.
Bien sûr, c'est le serpent qui se mord la queue parce que c'est le manque de confiance qui vous fait bégayer et c'est le fait de bégayer qui vous fait que vous n'avez pas confiance, donc c'est un peu compliqué. Concrètement, comment est-ce que vous avez construit votre vie professionnelle avec ce problème-là?
J'en ai chié, excusez-moi du mot, j'en ai
pas fait. On peut être cash, il n'y a pas de problème.
Ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai été placé dans une IMP, une scolarité à part, des classes de transition, vous voyez. Dans ce temps-là, c'était comme ça, comme c'était mon époque. Et après, j'ai suivi ce qui existait. Dans ce temps-là, vous voyez, des parcours à part, quoi. J'étais pas une scolarité normale jusqu'à 15 ans, quoi. Et après, je me débrouillais bien de mes mains, donc j'ai pris... C'est marrant parce que des gens comme moi, ils sont souvent bons manuellement. J'ai pu faire graveur sur pierre.
Et oui, vous compensez, bien sûr, évidemment.
Et c'est marrant parce que c'est un métier où je suis très nerveux, oui, les gens qui bégayent, ils sont très nerveux. Et j'ai pu me concentrer. J'adore la pêche, les trucs où il faut de la force de concentration. Et j'ai pu exercer le métier de graveur pendant 30 ans, quoi. Jusqu'à quand les machines arrivent, vous voyez. J'ai fait les beaux-arts, j'ai pu faire un CAP à part. Donc j'ai fait des cours par correspondance pour avoir ce CAP de graveur sur pierre.
Donc vous avez fait un métier qui vous a
plu. Une scolarité comme tout le monde, quoi, voilà.
Mais vous avez fait un métier qui vous a épanoui quand même.
Oui.
C'est une belle victoire, ça, déjà.
Oui, le but, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est pas parce qu'on a des handicaps comme ça qu'on ne peut pas réussir ça à sa vie, mais c'est vrai qu'il faut se battre deux fois plus, quoi.
Ouais. Mais vous pouvez être fier de vous d'avoir réussi ça, déjà.
Ce qui est le plus dur, c'est le regard des autres, quoi. Et puis d'être laissé à part.
Et donc, vous n'avez jamais fait de thérapie?
Ben voilà, justement, j'ai des gros problèmes en ce moment, parce que j'ai 3 images qui me gêne, c'est que j'ai pas eu d'amour étant petit. J'ai été placé dans un IMP où j'ai été torturé, où j'en ai déjà parlé, où j'ai subi une torture physique qui me marque encore. Je mets pas le foie de génisse et puis on m'a mis la tête dans le vomi au moins pendant 30 minutes en me forçant à manger le vomi. Je me souviens de cette personne, elle s'appelait Odette. Et j'ai cette image-là qui me remarque. J'ai perdu une petite fille de la mort subite d'une nourrisson à 10 jours. Je souhaite à personne de le vivre, donc je suis en thérapie en ce moment. Voilà. Et je vais faire une EMDR au mois de juillet.
Ça, c'est très bien.
Voilà.
En thérapie, je pense qu'il c'est vraiment très important pour vous de travailler sur ces traumatismes-là. Et je pense que le bégaiement vient aussi d'une peur, je dirais presque d'une terreur. Et je pense que vous avez été un petit garçon qui a été terrorisé par plein de choses.
Oui, bah là j'ai vécu, j'ai cette image de la main de la dame qui me maintient la tête dans le vomi au moins pendant 30 minutes, me forçant à manger ce foie, ça me terrorise. Et j'ai une autre image qui me poursuit, c'est mon épouse au fond d'un couloir et qui tient notre petite Émilie dans ses bras mortes.
Ce sont des traumatismes que vous allez pouvoir atténuer grâce à l'EMDR. Maintenant, sur le plan psychologique, je vous ai dit, il faut vraiment travailler sur la peur et l'humiliation. Oui. Et sur un plan plus physique, il y a peut-être des petits conseils que je peux vous donner. Souvent, quand on bégaye, c'est qu'on on parle non pas à l'expiration, mais à l'inspiration. On fait et forcément, on coince ces mots. Essayez de vous rendre compte quand vous parlez, si vous parlez bien sur l'expiration. Quand on parle sur l'expiration, ça aide déjà beaucoup. Mais et souvent, les bègues ne se rendent pas compte qu'ils parlent à l'envers, en fait.
D'accord.
Ils respirent à l'envers.
Mais là, je vous parle en ce moment. Vous voyez, j'ai essayé de parler au début parce que j'ai fait ce qui s'est passé en moi. C'est que j'ai travaillé beaucoup. Nicolas, mon thérapeute, il m'explique que je m'étais réfugié dans le travail. Mm-hmm. C'est vrai que je travaillais tout le temps. J'ai aidé mes parents, je bossais tout le temps et quand je me suis retrouvé en retraite, c'est comme un tiroir qui s'est ouvert ou que tout est ressorti, quoi. Voilà.
Bien sûr.
J'ai essayé de parler au téléphone, j'ai appelé plusieurs fois, j'ai pas pris repas, j'ai appelé. Excusez-moi, j'ai voulu parler, vous avez compris. J'arrivais pas à parler. Des fois, je parle avec des amis, mais le téléphone, c'est l'horreur, j'arrive pas à parler. Hein.
Mais là, vous parlez très très bien, vous voyez.
Mais oui, vous savez pourquoi? Parce que, je vais vous dire... Quand il y a un truc qui aide un peu, que je fais, mais j'en bois pas trop, c'est de boire un verre de vin. Et ça aide beaucoup.
Oui, bon, effectivement, avec modération. Hein.
Ben, excusez-moi, mais je ne devrais pas le dire à l'antenne, mais je le fais pas beaucoup. Mais vous voyez, rien que ça me stresse de l'avoir dit. Mais non, mais je le fais avec modération. C'est sûr, je bois pas. Hein. Mais j'ai remarqué que ça a aidé à... Comment, et surtout... Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui a un regard dur en face de vous, qui se moque et vous êtes bloqué. Hein. Je pourrais pas. Hein.
En tout cas, Dominique, sur le plan psychologique, vous avez compris, vous êtes en thérapie et vous programmez de l'EMDR, donc ça, je sais que vous êtes sur le bon chemin. Mmh. Sur le plan mécanique, j'ai peut-être encore deux petites astuces à vous donner. Je vous ai dit petit 1, respirez dans l'autre sens, c'est-à-dire parler sur l'expire et pas sur l'inspire.
D'accord.
Petit 2, quand vous parlez, vous pouvez faire un mouvement, parce que je pense que vous êtes assez kinesthésique, vous êtes dans le mouvement. Un mouvement comme pour serrer une balle molle dans la main. Vous savez, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Et associer à chaque fois que vous dites un mot, vous ouvrez la main. Vous fermez, vous ouvrez. Ça donne un rythme. Je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Et quelque part, vous vous accrochez à ce rythme-là que vous donne votre main. Vous voyez, comme si vous voyez le mouvement dont je parle.
Oui, je comprends ce que vous dites, je le fais.
Vous serrez une balle, vous l'ouvrez, vous l'ouvrez.
Une balle, je l'ouvre, je le fais en ce moment.
Et en fait, vous le faites à votre rythme, au rythme de vos mots. Et c'est comme si vous donniez justement un rythme à votre parole. Et la dernière chose aussi, quelquefois, c'est de visualiser les phrases que l'on dit. Comme si vous aviez devant vous... Vous savez, on voit ces images quelquefois des fils à haute tension, il y a des oiseaux qui sont positionnés comme des notes de musique.
Oui.
Eh bien, c'est comme si vous alliez déposer vos mots sur un fil imaginaire devant vous.
D'accord.
Un fil qui avance. Il faut qu'il y ait un rythme, en fait. Il faut vous accrocher mentalement à un rythme, soit avec la main, pour le kinesthésique, soit avec une image comme ça pour le visuel. Si vous déposiez des mots sur un fil continu.
D'accord, je vois.
Hein ? Ce sont des petites astuces, mais ça peut fonctionner aussi.
Mais c'est dû... comment c'est venu ? C'est ça que je me pose la question. Oui, parce qu'on n'en est pas. C'est un choc que j'ai eu avec mon papa, parce que je sais qu'on m'a expliqué qu'il avait mis des espérances en moi et je n'étais pas à la hauteur de ses espérances, peut-être aussi.
Oui, vous avez vécu beaucoup d'humiliation, beaucoup de peur. Et ça suffit, c'est un stress d'inhibition, en fait, le bégaiement. D'accord. Vous êtes rentré à l'intérieur de vous-même et vous avez du mal à en sortir.
Mais c'est affreux pour celui qui le vit, parce qu'on parle beaucoup de surdité, des gens aveugles, mais c'est la parole, c'est affreux. Et le problème que j'ai eu, c'est pour rencontrer une fille, je vous explique pas.
Bien sûr.
On est rejeté avec ça. Et puis je trouve qu'on en parle très peu dans les médias, peut-être qu'il y a très peu. C'est comme les maladies orphelines, qu'il y a très peu de gens qui le vivent.
C'est non, je crois pas. Non, il y en a beaucoup, Dominique, mais je crois qu'ils n'osent pas en parler, en fait. Justement,
mais
parce qu'ils ont du mal à s'exprimer.
Moi, je vous remercie d'avoir donné la parole à l'antenne, parce que c'est vrai que c'est pas du tout radiophonique, quoi. Je reconnais, hein.
Ben moi, je vous tire mon chapeau parce que je trouve que vous parlez très très bien et que c'est très courageux d'être venu parler de ça ce soir.
Ben, si vous voulez, je n'aurais pas pu vous parler comme ça les 30 premières années avant. Hein. Je ne pouvais pas.
J'ai bien
vous
fait d'attendre alors.
Vous m'auriez pas pris à l'antenne.
J'ai bien fait d'attendre.
Parce que ce n'est pas du tout radiophonique, il faut reconnaître. Quoi. Les gens comme moi, on les laisse de côté. Quoi. Voilà.
En tout cas, bravo d'avoir eu le courage d'appeler et bravo pour votre fluidité parce que vous parlez très très bien ce soir, Dominique.
Oui. Ben, je vous remercie.
Et je vous souhaite de trouver un apaisement avec ce thérapeute et puis les petites techniques que je vous ai données.
J'ai entendu plusieurs personnes qui ne voulaient pas le faire, mais moi je peux donner un conseil aux gens. Mais le souci aussi que je voulais dire, c'est que beaucoup faites une thérapie, mais vous ne savez pas le problème que c'est pour trouver quelqu'un. Parce que moi j'étais prêt à me suicider, vous voyez, il y a un moment. J'ai eu des crises d'angoisse, j'ai été content de trouver un copain qui m'a aidé. Et j'ai appelé des thérapeutes et j'ai été voir mon médecin qui me donne des médicaments. Parce que je le dis, je ne serais peut-être pas là à vous parler en ce moment. Parce que partout, quand vous allez dans tous les thérapeutes, il y a des 3-4 mois d'attente. Si vous voulez, pour le moment, là, je suis avec Nicolas, il s'appelle, et comment, il m'a pris, mais ce n'est pas sa spécialité, il s'occupe des problèmes familiaux, lui. Mais pour décompresser, il m'a pris en urgence. Et s'il n'aurait pas été là, ce monsieur, je ne vous parlais peut-être pas en ce moment, parce qu'ils sont en couple dans le village où j'habite, et il y a une maison familiale, et c'est sa femme qui fait les EMDR et qui s'occupe des problèmes liés à l'enfance.
D'accord.
Mais quand vous dites prenez un thérapeute, c'est pas le tout d'y aller, ouais, vous attendez 3-4 mois,
ils sont tous. Ouais.
C'est un sacré problème en France en ce moment, ça. Même si vous avez l'argent pour payer, eux ne sont pas disponibles, ne peuvent pas vous prendre.
Ouais, je sais que c'est un problème pour beaucoup de gens. Et je suis
donc,
contente que vous ayez trouvé
les urgences psychiques.
Oui, il y a aussi, bien sûr.
Oui, mais ce n'est pas pareil. Hein. Voilà.
Bon, Dominique, merci de votre appel.
Bon, bah, merci de m'avoir pris à l'antenne et puis bonne fin de soirée.
Merci à vous aussi. Au revoir, Dominique.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et c'est l'appel de Jocelyne que je prends maintenant. Bonsoir à vous, Jocelyne.
Oui. Bonsoir, Sabine.
Comment allez-vous?
Ma foi, no comment, j'habitue, no comment, bien et mal, mal et bien.
Bon.
Mais peut-être j'ai envie de changer. Et voilà.
Alors, racontez-moi un petit
Alors,
peu.
Alors, une rencontre un peu spéciale, mais enfin bon, ça serait une trop longue histoire à raconter.
Qu'est-ce qui vous a fait réagir ce soir? Qu'est-ce qui vous a donné envie
Alors,
d'appeler?
Alors, moi, c'est ce monsieur, voilà, Dominique, en plein Jura, en plus, j'ai la chance d'habiter une région que moi aussi j'ai traversée pour aller en Allemagne. Voilà, je me souviens d'un automne où les feuilles étaient rougeoyées, etc. Bon, enfin, voilà. Donc, il a de la chance, ce monsieur, et en plus, d'entendre des grillons. Vous savez qu'on est fait partie d'une génération, on a eu cette chance hein, de voir tout un tas de bestioles. Voilà, alors j'ai réagi parce que j'en tremble d'ailleurs, je suis très émue, mais ça va être l'occasion peut-être de rendre un hommage à Régis Debray. Mais là, il ne faut pas que je me plante, hein. Parce qu'il s'agit d'un écrivain, philosophe, ancien conseiller de Mitterrand, un grand connaisseur de Paul Valéry. On est en terre de Paul Valéry ici. Vous n'avez pas très loin le cimetière marin.
Mmh.
Et voilà.
Et vous parlez
Alors,
de lui parce que c'est
chance,
un monsieur qui était bègue, c'est
par
ça?
Par chance, j'ai retrouvé dans Comète, ma comète, qui est un livre, qui est un ouvrage qui sort dans les années 90, 96, je crois. Régis Debray a 46 ans, puisqu'il est en 40. Et sa fille en a, je sais pas, une dizaine, voilà. Et ça va être l'occasion pour lui, en parlant de sa fille, de parler de son enfance. Et en parlant de son enfance, il va parler de ce bégaiement. Donc, comète ma comète, voilà. Et j'ai retrouvé la demi-page, mais vraiment la demi-page, d'un carnet de route qui est à la fois une biographie, enfin, un tracé hein, de sa vie, avec quelques extraits de ses ouvrages, voilà. Alors, il y a des essais, voilà. Alors, pourquoi Régis Debray? Parce que déjà en 80, il faut refaire peut-être l'histoire, mais brièvement, dans les années 80, moi, j'avais entendu parler de Debray, voilà. Mais un soir, alors je ne sais pas si c'est chez Pigeot, Bernard Pigeot, je l'entends. Et je suis ébloui par la langue. Je suis vraiment ébloui par la langue. Et les jours qui vont suivre, je vais essayer de trouver l'ouvrage qui va restituer ce plaisir presque jouissif d'une langue, voilà. Et je vais acheter, je vais pas acheter un roman, hein. Je vais carrément acheter le scribe, voilà. Voilà. Alors j'ai lu Debray, mais ce n'est que depuis 3 ans quand j'ai souhaité le rencontrer, qu'il m'a opposé un silence de verre. D'ailleurs, il a eu raison. Debray, il est très particulier quand il sent qu'une situation ne qui ne peut pas la maîtriser, il ne parle pas. Et j'ai eu l'occasion de la voir au téléphone il y a à peu près 2 ans. Voilà, mais je ne lui ai pas parlé de la raison pour laquelle je souhaitais le rencontrer. Voilà. Pour vous dire que j'ai découvert récemment, mais aux larmes, un texte émouvant qui parle de ce bégaiement.
Mmh.
C'est pas une mince affaire, c'est une grande souffrance. Alors vous disiez, juste, peut-être, je ne sais pas, tout à l'heure je vous ai écouté, que c'était peut-être la douleur de ceux qui n'ont pas trouvé sa place. C'est pas con ça. C'est pas con.
Je vous remercie.
Mais oui, non, mais j'ai pensé, bon, moi je ne fais pas la psychologie des gens que je lis, qui tant est qu'ils me passionnent. Voilà. Mais j'ai une affection particulière pour Debray, oui. Mais ça, bon, ça me regarde. Voilà. Alors, j'aurais aimé, ce monsieur, Dominique, je crois, et d'autres, si tant est que vous me permettez de lire, hein, c'est une demi-page pour vous donner, ou donner à entendre ce que c'est que le bégaiement, comme connaît Dominique et d'autres, certainement aux auditeurs.
D'accord.
Alors, lui, il a dépassé ça, pour nous donner une langue à entendre, une des plus belles langues actuellement parlées. Debray, c'est très, très, très particulier, c'est très singulier.
Vous avez ce texte-là sous les yeux?
Absolument, je l'ai trouvé. Je ne sais pas comment j'ai fait, hein, parce que pour trouver une page, surtout quand je tremble, je suis émue. Hein. C'est le bordel. Attendez, mes lunettes. Ça y est, mes lunettes, je ne vais pas les trouver. Ça y est, ça ne va pas marcher. Dites-moi que ça va marcher, parce que sinon, aidez-moi.
Oui, respirez profondément.
C'est franchement dommage. J'ai pourtant réuni tout, le bouquin.
Prenez le temps de respirer et de le retrouver, ça va aller.
Non, c'est pas vrai.
Mais si vous êtes
fou. C'est pas vrai. Oui, il fallait bien que ça marche pas. Je ne peux pas lire sans mes lunettes.
Ah, c'est les lunettes que vous avez perdues. Elles sont sur votre
tête,
non?
Oui. Non, sinon le bouquin est devant mes yeux, quoi, puisque j'ai foutu. Non.
Elles sont pas sur votre tête, vos lunettes?
Pardon?
Elles ne sont pas sur votre tête?
Je vais faire effort, tant pis, hein. Comme à l'an 40, hein. Sans les lunettes, hein, tant pis. On va essayer.
On se tente sans lunettes.
Très difficile, hein. Très difficile. Je vais changer de pièce. Oh non, c'est pas vrai, non. Non, voyez-vous, là, ça, c'est moi tout craché. C'est moi tout craché. Je m'assassine.
Réfléchissez à ce que vous faisiez la dernière fois que vous les aviez sur le nez.
Ouais, j'étais dans une autre pièce.
Eh ben, allez voir dans l'autre pièce.
Vraiment, le plus difficile était de retrouver la page. Les lunettes, de toute façon, je les perds sans arrêt. Donc, je suis une grande émotive.
Comme tout le monde, vous savez, où sont mes lunettes, c'est un cri que tout le monde pousse.
Ah non, c'est quand on est décentré, hein. Je ne sais pas. Là, je suis hyper décentré. Je n'ai plus confiance en moi, là.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, Jocelyne?
Non. Pardon?
Qu'est-ce qu'on fait?
Jocelyne. Jossi, j'y tiens.
Jossi, ah, sur ma fiche, j'ai marqué.
Identité. Oui.
Jossi.
Bon, j'ai un nom de baptême qui est Jocelyne. Mais ça participe de mon identité.
D'accord.
Authentique, hein. C'est pas seulement un diminutif, comme Cathy ou... Bon, je vais essayer. Sinon, est-ce que vous pourriez m'accorder la faveur? Peut-être Corentin ou Hassan me rappeler, parce que vraiment c'est un joyau de littérature et ça montre bien, il compare c'est le soir quand il était adolescent, quand il fallait qu'il parvienne à sortir. En plus, il y a des sonorités qui ne pouvaient pas sortir, les sifflantes. Enfin, je n'en sais plus trop rien. Voilà, il compare ça à un boulot d'alpiniste. Alors, ah oui, c'est vraiment extraordinaire.
Jessie, je viens de discuter avec Corentin. On va faire une courte pause.
D'accord. Vous êtes adorable. Je crois que je vous envoie un bouquet de fleurs.
Vous ne quittez pas, vous retrouvez
non,
vos
vous
lunettes.
Vous êtes adorable, là, parce que je n'assure pas.
Allez, dépêchez-vous, allez récupérer vos lunettes et je vous récupère après le titre qu'on
d'accord,
va passer maintenant.
D'accord, avec ça, très bien, merci.
À tout de
suite. C'est gentil, vous êtes adorable.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Alors on est resté en plein suspense. Jessie, est-ce que vous avez retrouvé vos lunettes?
Ben oui, mais ça c'est tout moi.
Bon.
Ça c'est tout moi, c'est...
C'est pas grave, l'essentiel c'est que vous les ayez
maintenant.
Ah non, maintenant.
Mais franchement, là je suis pas contente. Je suis en colère, là je vais me mettre au piqué, me mettre un bonnet d'âne, j'en sais rien.
Mais Jessie, concentrez-vous sur le positif.
Franchement, non.
Écoutez-moi.
Je vous assure, c'est un...
Écoutez-moi, concentrez-vous sur le positif au lieu de râler. Dites-vous qu'on vous a attendu, qu'on a passé un disque et qu'on vous reprend, tout va bien.
D'accord.
Hein? Allez,
je vais quand même m'assurer, je vais faire l'effort avec une mini torche, mot par mot, et je vais le lire. Voilà, parce que franchement, comme ça, j'y porterai beaucoup plus d'attention. Il ne faut pas que je me plante, hein, parce que c'est du debré. Voilà.
Allez,
vous n'avez pas écouté Un été avec Paul Valéry, là, sur France Inter?
Donc vous êtes gentil de ne pas venir faire de la pub pour les autres radios chez nous, c'est pas très cool
d'accord.
Ça.
D'accord. Non, oui, bon. Vous me dites quand est-ce que je commence, Sabine,
ben, quand vous
parce
voulez.
Que c'est pour ce monsieur et d'autres. Hein.
Prenez une bonne respiration et on y va.
Et oui, et avant, il y a une autre figure hein, très connue, que je ne connais pas bien, hein, c'est Bayrou. Voilà. Les souris. C'est comme ça, voilà.
Quand vous voulez,
bon, vous me dites top chrono. Hein.
Allez, top départ.
Je ne me plains pas. Je dois mon bonheur au bégaiement de point. Une enfance à lire, faute de mieux. Un certain goût qui m'est resté de regarder, d'écouter les autres en silence. Une bonne endurance à la solitude. Une cellule de prison vous soustrait aux tireurs d'élite. Je me rends ventriloque. Franchement, c'est escanté un texte. Une sorte de muraille, même, puisque avec l'obligation de planer dans les caves. Franchement.
Non, Jessie, c'est laborieux. C'est vrai que du coup, on n'en profite
c'est
pas.
C'est laborieux. Hein.
On va en rester là, parce que j'ai encore pas mal d'appels et il y a quelqu'un qui attend derrière et qui est une dame âgée que j'aimerais prendre. Revenez avec vos lunettes. Non,
franchement.
Je
vais continuer. Non,
je ne permets plus, parce qu'honnêtement, d'accord. On a perdu le fil. Ça perd de la magie et c'est dommage. Et pour
oui,
vous, et pour
sûr.
Le texte.
Bien sûr, mais bien sûr.
Ce que je vous propose,
et veuillez m'excuser.
C'est pas grave.
C'est
compliqué. Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse ça un autre soir, d'accord?
Oui, d'accord.
Hein? Vous aurez vos lunettes et le texte et on reprendra le temps, mais là, c'est du gâchis.
C'est du gâchis, c'est la perte de temps surtout, voilà.
Allez, je vous embrasse aussi. À une autre fois.
Voilà. Mais vraiment,
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Micheline, est-ce que vous êtes là?
Bonjour Sabine.
Bonsoir Micheline, je ne voulais pas vous faire attendre, je voulais prendre le temps qu'on se parle un petit peu toutes les deux.
Oui.
J'ai l'impression que ça va pas fort là ce soir.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe?
Alors, je dois m'exprimer.
Oui.
Bon.
Je vais préciser, voilà. Pardonnez-moi, mais j'ai précisé que vous avez 92 ans.
Voilà, c'est ça, exactement.
Comment allez-vous?
Ça va. Oh, quelques petites douleurs dans le dos. Mais enfin, bon, je vais pas me plaindre du tout. Hein.
Mm-hmm.
Ça va, je suis chez moi, je suis autonome, je fais tout, quoi. J'ai quand même une personne qui vient tous les 15 jours pour faire un peu mon ménage, faire tout ça, quoi.
Et qu'est-ce que
mais
vous faites?
Autrement, ça va.
Qu'est-ce que vous faites de vos journées?
qu'est-ce que je fais de mes journées? Ouais. Ben, ça dépend. Des fois, je regarde la télé. Des fois, je vais faire mes courses. Enfin, j'emporte ma liste. Je fais ma liste de courses. Et alors, après, on me livre. Je prends ce que je veux. Et après, on me livre le reste. Mmh. Voilà.
Est-ce que vous avez...
Je me suis organisée comme ça.
Est-ce que vous avez des amis?
Oh oui, beaucoup.
Ah, ça, c'est
je suis surtout une amie. Je dis toujours, je n'ai pas eu de sœur, mais celle-ci, vraiment, c'est une sœur pour moi. Elle est... On se raconte tout, toutes les deux. On peut se raconter ce qu'on veut, on se comprend, et vraiment, elle est adorable pour moi, quoi. J'en ai d'autres aussi, mais celle-ci, c'est vraiment l'amie. Voilà, ce qu'on peut appeler une amie.
C'est un,
voilà.
C'est un pilier, hein, une bonne amie.
Comment ?
C'est un pilier d'avoir une bonne amie.
Oh là là, c'est précieux, hein. Vraiment précieux.
Micheline, est-ce que vous avez été mariée ?
Ah oui, pendant 53 ans.
53 ans.
Et j'ai perdu mon mari il y a... Ça va faire 13 ans. Voilà.
D'accord. Et vous avez eu des enfants ?
J'en ai deux. Deux fils.
Mmh.
Un qui est à près de moi, là, enfin. Et un autre qui habite Lyon.
Et combien de petits-enfants et peut-être d'arrière-petits-enfants ?
8 petits-enfants et une arrière-petite-fille qui a... Elle a quel âge ? 9 ans, 9-10 ans, voilà. Qui est adorable pour moi aussi. Mais malheureusement, ils sont très loin. Mon petit-fils, celui-ci, là, est très loin. Il habite à 900 km d'où j'habite. Mais l'autre fois, pour Pâques, je ne m'y attendais pas. Et il m'a fait la surprise de venir me voir avec sa petite-fille.
Ah, c'est formidable, ça.
Ah, j'étais ravie, ravie, ravie. Ah, ça, je ne l'attendais vraiment pas. Et il est marié. Et vous savez ce qu'il m'a demandé un jour au téléphone? Il m'a demandé, mamie, est-ce que tu pourrais me conduire à l'hôtel?
Oh, c'est
et
un bel hommage.
Lorsqu'il s'est marié, il m'a demandé ça. Je me suis mise à pleurer de bonheur. Et de, comment dire,
de
j'étais bouleversée, quoi.
Mmh. Vous deviez être fière ce jour-là.
Hein? Ah oui, ah oui, ah oui, j'étais fière. Ça, vous savez, j'avais mis ma belle tenue, enfin j'étais vraiment... Ils sont, j'ai les 8 là, mes 8 petits-enfants, ils sont charmants pour moi. Ah, vraiment charmants.
Mais
je n'ai pas vraiment à me plaindre du tout. Ils sont adorables.
Mais je pense que vous
ils
devez...
aiment bien leur mamie.
Vous devez être adorable avec eux aussi.
Ben oui, je crois. Hein.
Il n'y a pas de secret.
Et puis, ça... Ah oui, oui, ça, c'est vrai. Je suis adorable avec eux. Hein. Je leur donne des, je leur fais des, comment dire, c'est pas des réflexions, non, mais je les, oh mince, le nom m'échappe, c'est, comment dire,
des confidences
des confidences, oui, et puis des, pour eux, pour leur future carrière, parce
des
qu'ils
conseils.
Sont ils sont tous très bien, genre l'aîné est chirurgien. L'autre, il y en a un autre qui est ingénieur. J'en ai un autre qui est plus jeune, qui fait pareil, des grandes études aussi. De l'autre côté, de celui qui est près de moi, mon fils là, il a son fils est ingénieur aussi. L'autre qui fait des grandes études, qui va bientôt avoir le deuxième, qui veut passer le deuxième master, et qui est ingénieur aussi. Et ma petite fille qui fait des études de médecine, voilà,
ah ben,
qui
oui.
va passer bientôt son internat.
Vous êtes fière
dans 15 jours.
Dans ce que j'entends, vous êtes fière d'eux, Micheline.
Ah, je suis gâtée.
Alors, pourquoi est-ce que vous m'appelez ce soir? J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même quelque chose qui coince là aujourd'hui.
Voilà, qui coinçait avec mon fils qui est près de moi là. Bon, et alors, c'est venu bêtement. Bon, j'ai perdu mon beau-frère, malheureusement, de la maladie d'Alzheimer. Et ma belle-sœur est restée seule, évidemment. Bon, et alors, elle a fait le choix de vendre sa maison et d'aller en foyer logement. Et alors, ce qui coince, quoi, est venu de là. Parce que mon fils m'a dit, maman, tu devrais faire pareil. À ton âge, on ne sait pas ce qui peut t'arriver. Et malheureusement, moi, je ne veux pas y aller. Tant que je suis autonome chez moi, j'adore mon petit chez moi. Et pourquoi j'irais là, ça ne me plaît pas. Alors, il a insisté, et puis bon, on s'est... Et puis s'est énervé, enfin bref, bon. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Mais maintenant, ça va mieux quand même. Hein. Mais il est assez, il se met vite, vous voyez, il monte vite en... Pas crier si on veut, mais il s'énerve, voilà, c'est ça. Il s'énerve facilement. Voilà, je veux bien que il est pas très bien. Il vient d'être opéré d'un genou, il a mal, enfin, il est mal aussi. Alors, faut pas. Je sens qu'il faut pas trop en parler, qu'il faut pas trop l'énerver, quoi. Mais enfin, depuis, ça va mieux. Hier, je suis allée manger chez eux. Alors, vous voyez, en fait, il y avait tout le monde. Ils m'ont fêté, Sabine, mes 90 ans, une merveille. J'ai été gâtée comme je ne sais quoi.
Merveille. Qu'est-ce qu'ils vous ont offert?
Oh, des bijoux. Ils m'ont offert une machine à laver chauffante, séchante. Ils m'ont offert beaucoup de choses. Puis leur amour, surtout.
Beaucoup d'amour, oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Ah oui, ils m'ont offert beaucoup d'amour.
Maintenant, Micheline, dans ce que vous me racontez, vous soulevez un problème très délicat qui est le placement de nos aînés. C'est vrai que c'est toujours extrêmement difficile à aborder.
Ah oui.
Ce qui est important, c'est de comprendre l'intention. Parce que je vais être très honnête avec vous, quand un enfant demande à ce que sa mère soit placée, il y a deux intentions. Soit l'intention est réellement positive, c'est-à-dire qu'il y a une inquiétude d'accident ou de manque d'autonomie, et dans ce cas, on peut travailler à le rassurer, à lui expliquer que vous êtes autonome et que vous n'avez pas envie de partir. Soit l'intention est intéressée parce qu'il y a un enjeu financier derrière. Et là, c'est plus compliqué. Et là, il ne faut pas hésiter à se fâcher un peu plus, si vous voulez.
Mais là, il s'entêtait. Hein. Vraiment, il s'entêtait. Il disait, c'est vrai qu'à 92 ans, il peut m'arriver quelque chose. Mais alors, ce qui m'a fait prendre, et qui est très, très bien, vous savez, c'est le collier et le bracelet de sécurité.
L'alerte, oui.
Comment ?
Un bracelet d'alerte, si vous arrive quoi que ce soit.
Voilà, exactement.
Est-ce que vous pensez que votre fils a des intérêts financiers à vous faire vendre la maison?
Ah non, alors là non, ils en ont pas besoin. D'accord. D'ailleurs.
Ok, donc là, si ça c'est réglé...
Ah non, ce sujet-là, non, n'est pas du tout... Non, c'était, je crois, bon, et il me dit, il a peur que, évidemment, à mon âge, il peut m'arriver quelque chose. Dieu merci, j'ai toute ma tête. Hein, je suis, comme je vous ai dit, je suis vraiment autonome. Mmh. Je fais ma toilette, je fais ma cuisine, je m'habille toute seule. Je suis très coquette encore pour mon âge. Hier, j'étais très coquette, très belle. Tout le monde me fait des compliments.
C'est bien.
Voilà.
Et qu'est-ce qui vous effraierait dans l'idée d'être placée dans un foyer comme ça?
De m'ennuyer. Je crois que c'est pas mon monde à moi, vous voyez. J'ai tenu un commerce pendant 40 ans. J'étais dans la coiffure, voilà, j'étais coiffeuse, exactement, pendant 40 ans. Et c'est pas mon monde à moi, ça. Je me vois pas, moi, parce que, vous savez, dans ces maisons-là, les foyers logements, il y a quand même des personnes qui sont... Bon, moi, ça peut m'arriver aussi, invalides, qui sont plus ou moins autonomes, enfin, qui sont presque pas autonomes, tout ça. Voir tout ça, non, pour l'instant, non, je ne suis pas là.
Vous pensez
c'est
que
pas
ça,
mon monde à moi.
Ça jouerait sur votre morale, ça?
Ah oui, exactement. Mmh. Je dis, il me forcerait, c'est pour ça. De toute manière, je ne veux pas y aller, hein. Alors là, non, il n'en est pas question. Mais je me vois là-dedans, je me vois quitter mon petit F2, parce que du temps avec mon mari, nous avions un grand appartement, et dès qu'il a malheureusement décédé, parti, je l'ai vendu pour m'acheter un petit appartement là à F2, et qui j'ai arrangé à ma manière. Tout le monde me dit qu'il est très beau, qu'il est très coquet, qu'il est très... Alors, je sais qu'en partant, en le vendant, il faudrait que je le vende, hein, mon appartement. Je pleurerai, je ferai une dépression après. Ça, j'en suis sûre. Hein.
C'est comme si...
Je serai là-bas avec des gens qui seraient plus ou moins gentils, quand même. Remarquez, je ne critique pas les gens qui y sont, hein, pas du tout. Mais pour moi, c'est pas mon genre, vous voyez, c'est pas mon genre. Enfin, pour l'instant, hein, faut pas non plus que je... Pour l'instant, c'est pas... Non.
Bon, c'est ça,
c'est pas mon genre de vie.
Je pense que vous êtes la première à comprendre que si un jour ça, votre état est moins
bien sûr que oui.
Vous serez demandé de l'aide, mais pour l'instant, vous avez entièrement raison de rester là où vous êtes bien, évidemment.
Alors, c'est ça que je voulais savoir, ce que vous en pensiez. Si j'avais raison de vouloir rester chez moi du moment que je suis autonome, bon, on verra le jour où il m'arrivera quelque chose.
Écoutez,
bon,
de ce que j'entends ce soir, Micheline, vous avez toute votre tête, vous êtes parfaitement lucide.
Ah ben, je suis parfaitement lucide,
voilà,
oui.
Je ne vous connais pas personnellement, mais j'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez. Et je sais à quel point ça peut être très délicat pour des gens de votre âge de quitter sa maison. C'est comme si on vous arrachait une partie de vous-même.
Oh là là, ce serait, pour moi, là, quitter mon petit appartement, tout le monde me dit qu'il est tellement joli, que c'est tellement bien arrangé, qu'avec beaucoup de goût. Alors, oh là là, non, pour l'instant, non.
Non, je pense
et puis,
que
vous
peut-être...
savez, quand on est dans le commerce pendant 40 ans, on a des approches avec les gens, j'approche les gens, les personnes. Même des fois dans la rue, je vois une dame avec une canne comme moi, je lui dis, oh, c'est pas drôle hein, d'avoir... Alors, on papote quelques petites minutes et puis après, on s'en va. Je suis comme ça, je vais vers les gens, quoi.
Moi, je pense, en vous entendant, que vous êtes très heureuse dans votre vie et que si on vous enlève ça, vous allez devenir très malheureuse.
Oh ben, je serais malheureuse. Ah oui, mais je serais capable de faire une dépression, de faire n'importe quoi. Je pleurerais tous les jours. Hein.
Maintenant, peut-être, il y a juste une petite chose qui me choque dans votre récit, c'est que vous m'avez dit que vous avez quelqu'un tous les 15 jours pour vous aider. Ça me paraît pas beaucoup, ça. Peut-être que vous pourriez rassurer votre fils en ayant quelqu'un un peu plus fréquemment avec vous.
Ah bon ? Oui, tous les 8 jours, alors ?
Ben, moi, je pensais même un peu plus.
Toutes les semaines ?
Ça me paraît pas beaucoup, hein.
Ben, moi, ça me suffit, ça va.
Peut-être avoir quelqu'un qui veille sur vous, qui vienne passer une tête pour être sûr que tout va bien.
Sabine, il m'avait dit aussi de prendre une aide ménagère. Ben, moi, je sais pas, ça me tente pas non plus.
Vous n'avez pas envie. Non, mais si vous n'avez pas envie d'aide ménagère, mais je pensais peut-être plus à quelqu'un qui passe s'assurer que tout va bien, vous voyez. Pour rassurer votre fils.
Ben oui, mais je suis rassurée avec ce que j'ai là. Hein.
Avec le boîtier.
C'est
oui.
Très. Ils sont vraiment. Chaque fois que ça m'arrive de le cogner, hein, quand je fais quelque chose, ça m'arrive de le cogner. Aussitôt, il m'appelle. Hein, pour savoir. C'est très. Comment dire très.
Très efficace.
Ah oui, très efficace ça. Il m'appelle, Madame Rousseau, excusez-moi, je dis mon nom, Micheline, enfin bref. Et Madame, ça va, sans arrêt, il m'appelle jusqu'à temps que je réponde. Hein. Ah ça, c'est très efficace. Et là, je vais en avoir un encore plus efficace, ils m'ont dit. Alors, non, mais ça je suis d'accord avec mon fils, là,
et ça, avec celui-là. Ça ne suffit pas à le rassurer, ça ?
Comment ça, oui, ça... Puis moi, ça me rassure aussi, quand même.
Non, hein. Mais votre fils, est-ce que ça suffit à le rassurer, ça ?
Ben oui, c'est lui qui m'a fait prendre ça, et là, j'étais entièrement d'accord avec lui. Hein. Là, il n'y a pas de problème.
Bah écoutez, faites-lui la promesse de prendre bien soin de vous, de faire attention, et de lui dire que voilà, le jour où vous sentirez que vous avez besoin d'aide, vous le demanderez, mais que pour l'instant, la plus belle aide qu'on puisse vous apporter, c'est de vous laisser chez vous, tranquillement.
Oui, ouais. Et puis je fais très attention de ne pas tomber, je fais très attention, je suis bien consciente de mon... Mais vraiment... Pour l'instant, je m'occupe de mon argent, de tout ça, de payer tout ce que j'ai à payer, enfin bref.
Continuez comme ça, Micheline, prenez soin de vous.
Ben oui, c'est ce que je fais.
Et continuez sur cette belle route, ce beau chemin de vie qui est le vôtre. Je me permets de vous embrasser très très fort.
Ben, puis moi aussi, hein, Sabine. Et merci, vous m'avez donné le conseil de rester quand même encore chez moi.
Profitez de votre vie tant qu'elle vous plaît. Je vous embrasse. Je dois me dépêcher, la libre antenne se termine. Merci à tous ceux qui sont venus prendre la parole ce soir. Merci à ceux qui sont intervenus par SMS comme chaque soir. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à partir de 23h pour une spéciale autour de l'adoption. Vous avez été adopté, vous avez été adoptant, venez nous en parler 3921 ou inscrivez-vous par mail sur libreantenne@europe1.fr. 3921 pour laisser un message, dites précisez bien que c'est pour l'émission de demain soir, Libre Antenne spéciale adoption. Passez une bonne nuit avec les programmes d'Europe 1. À demain.